Bonjour et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Pascale Ryan, de la Direction de la Programmation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui ce troisième midi littéraire avec la poète Hélène Dorion. Les midis littéraires de la Grande Bibliothèque prennent l'affiche à tous les deuxièmes jeudis du mois sur l'heure du midi. Il s'agit d'une nouvelle série de rencontres avec des écrivains francophones d'ici et d'ailleurs. Nous avons reçu le mois dernier Gaëtan Soucy et le 15 février dernier Dany Laferrière. Et si vous ne pouviez être présent, vous pouvez aller écouter ces rencontres fort intéressantes sur le site de BANQ. Animée par la journaliste et écrivaine Aline Apostolska, journaliste culturelle, chroniqueur à la presse et auteur, ces rencontres se veulent être une invitation dans l'univers d'un auteur. Vous serez invité à la fin de l'entretien à poser des questions ou à partager vos commentaires sur la rencontre. BANQ accueillera également dans le cadre de ces rencontres Alain Mabankou, une rencontre qui se tiendra exceptionnellement dimanche le 29 avril dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleu, Jean-François Beauchemin jeudi le 10 mai et Jacques Godbout le jeudi 14 juin. Nous espérons vous y voir nombreux. Sans plus tarder, je cède la parole à Aline Apostolska en vous souhaitant un bon midi littéraire.
Bonjour, merci de prendre goût à ces rendez-vous réguliers et mensuels. Alors, je veux présenter notre invité d'aujourd'hui en vous lisant un tout petit extrait de son essai « L'Arche du temps » où elle écrit « Vision singulière du monde capable de secouer nos certitudes, de nous ébranler, de susciter l'émoi, c'est-à-dire de nous mettre en mouvement, un mouvement véritable qui n'est pas vaine agitation mais avancée profonde. Ainsi, la poésie est-elle un lieu possible de métamorphose de l'être ?» Cette poétesse, je dois dire que c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, par les hasards de la programmation, la seule femme et la seule poétesse de cette première série de rencontres qui ont lieu de février en juin. Cette poétesse connue et reconnue dans la francophonie, mais également dans les quelques 15 langues dans lesquelles ont été traduits ses ouvrages, chemine sur son propre chemin d'écriture en ne cessant de nous questionner sur l'origine de l'humanité autant que sur notre propre commencement individuel, sur les relations entre l'atemporel et le périssable, entre l'infini et le plus intime, entre l'absolu et le vivant. Dans sa poésie, l'écho de l'universel et de l'ailleurs côtoie l'attention aux moindres détails de l'environnement immédiat, l'histoire collective et l'histoire d'un seul être. Depuis 1983, elle a publié plus d'une vingtaine de recueils de poésie, ici et en France, un essai, un récit autobiographique, des livres d'artistes, un conte illustré pour enfants, et également une anthologie ainsi qu'une rétrospective de ses œuvres de 1983 à 2000. Elle a également été directrice littéraire des éditions du Noroi pendant 8 ans. Elle a traduit des livres de poésie, dirigé des éditions spéciales, notamment une sur Saint-Denis-Garneau. On peut régulièrement la lire dans les revues québécoises et européennes. Les prix qui couronnent cette œuvre imposante sont nombreux, parmi lesquels le prix Alain Grandbois de l'Académie du Québec, le prix Aliénor, le prix international Wallonie-Bruxelles, le prix de la Société des écrivains canadiens et récemment, en 2005, le prestigieux prix Mallarmé et en 2006, le prix du gouverneur général pour la poésie. Elle fait partie des jurys permanents des prix francophones de poésie Léopold Senghor et Louise Labbé. Elle a été reçue à l'Académie des lettres du Québec en 2006. Je vous remercie d'accueillir, comme elle le mérite, Hélène Dorion. Hélène Dorion, je suis vraiment ravie. Comme je disais, les hasards du calendrier ont fait que vous êtes à la fois la première femme et poétesse de cette série des midis littéraires. Alors, je vous rappelle que les midis littéraires, ça se passe le midi parce que nous avons des plats de résistance et de consistance tout à fait importants, qui sont bien sûr les livres même de l'auteur. La première question, ceux qui sont peut-être déjà venus savent que ça ressemble toujours à une question de police et c'est toujours la même question. Nom, prénom et lieu de naissance. Bon. Et date et lieu de naissance.
Ça va, j'ai pas l'habitude des questions de police, je le dis. Alors, je suis née à Québec le 21 avril 58.
Oui. Et je sais depuis Jour de sable, qui est votre récit autobiographique dans lequel vous aviez accepté d'abord, on va en parler par la suite, de passer de la poésie à la prose poétique, mais de la prose. J'ai bien sûr, comme beaucoup d'autres personnes, eu quelques trouées, je dirais, quelques aperçus de votre enfance. Mais c'est de l'enfance dont je veux parler ici de manière différente. Et je me disais que, justement, vous aviez peut-être pas beaucoup parlé de vos parents dans ce livre-là. Or, ici, on en parle un petit peu, juste pour savoir quel est le cheminement réel entre la réalité, justement, de la vie et les influences qui ont pu, après, se détacher dans la littérature. Donc, qui étaient vos parents ?
Des gens, d'abord des gens très, très simples. Ma mère venait de Québec, mon père de Charlebourg, en banlieue de Québec. Et disons, c'était des gens qui n'avaient pas fait ni l'un ni l'autre de hautes études. Ma mère, très tôt, avait dû travailler pour aider sa famille. Et mon père avait commencé des études en architecture, mais il avait dû les abandonner pour... il était l'aîné de sa famille, donc il avait dû aller travailler pour son père, qui était plombier... qui était entrepreneur plombier, donc il avait sa propre entreprise. Mon père a travaillé pour lui. Alors, disons qu'il a, développé ses intérêts et son désir de connaissance vraiment de façon autodidacte, par lui-même, tout au long de sa vie. Il vit encore, d'ailleurs, et il continue à avoir la même curiosité.
Au moins une chose qui vous est transmise, c'est sûr.
Oui, effectivement, parce que quand je dis que ce sont des gens, disons, très simples, il n'y avait pas chez moi, disons, des pans de murs de livres. Je le dis d'ailleurs dans Jour de sable, à peu près les seuls livres qu'il y avait, c'était une encyclopédie médicale. Alors moi, le premier livre que j'ai lu, c'est une encyclopédie médicale, parce que je lisais tout ce qui me tombait sous la main dès que j'ai su lire, ce qui pour moi était très, très important. Avant même d'aller à l'école, je voulais... savoir lire. Je demandais à ma mère de m'apprendre à lire. Elle avait beau me dire, mais tu, c'est pour ça que tu vas à l'école. Mais moi, je voulais déjà le savoir. Et à partir du moment où j'ai su lire, il me semble que là, le monde s'est vraiment révélé. Mm-hmm. Donc, pour moi, il s'agissait de tout lire. Et si j'arrivais à tout lire, tout aurait du sens. Parce que le sens venait, pour moi, vraiment par le langage, par les mots, par ce lien très simple mais essentiel entre un mot et une chose. Et tant qu'une chose n'était pas nommée, il me semblait qu'elle n'existait pas, qu'elle n'avait pas de sens. Alors, quand je dis que j'ai lu l'encyclopédie médicale, ben c'est parce qu'il y avait ça chez moi, tous les tomes, et donc j'ai connu rapidement toutes les maladies, tout ça. J'ai tout oublié depuis, mais enfin, ça a été le premier contact que j'ai eu avec les livres. Par la suite, bien sûr, il y avait, à l'époque, bon, ma famille était... très modeste, un milieu très modeste. Donc, rapidement, ma mère a vu aussi mon désir de connaître et on parle des années 60, à ce moment-là, commençaient des sortes d'encyclopédies par fascicules dans les épiceries. Alors, il y avait l'encyclopédie des animaux, tout ça. Bon, comme ils n'avaient pas les moyens de m'acheter tous les livres que j'aurais voulu avoir, alors chaque semaine, il y avait un nouveau fascicule à l'épicerie et ma mère se faisait un devoir de me l'acheter dans la semaine. Je lisais ça, j'attendais le suivant et patiemment, je l'accompagnais pour avoir le fascicule suivant. Donc, ça a été quand même des lectures. J'ai pas lu Balzac à 8 ans, là, on le comprend.
Non, mais...
À cause de ce milieu modeste, d'une part... Mais comme je dis, si mes parents, par exemple, ne m'ont pas transmis comme tel la connaissance, ils m'amenaient pas au musée, on n'avait pas accès à des tonnes de disques, j'ai découvert tout ça par moi-même, lentement par la suite, mais je considère qu'ils m'ont transmis peut-être le plus important, c'est-à-dire le désir de connaître.
Oui.
Et cet élan, cette quête, cette poussée, cette curiosité, je pense que ça, c'est aussi important que la connaissance elle-même, parce que c'est l'instrument de connaissance. Et il ne m'a jamais quitté par la suite.
C'est sans doute l'essentiel. Je vous dirais que la dernière fois ici, Gaëtan Soucy nous avait dit qu'il lui, il avait appris à lire dans la Bible parce que c'est ce qu'il y avait dans sa bibliothèque, vous dans l'encyclopédie médicale. Mais l'encyclopédie médicale, c'est aussi une certaine conscience très tôt dans votre vie de la précarité du vivant aussi qu'on va retrouver dans vraiment beaucoup dans votre œuvre. Si on regarde toujours la petite fille que vous étiez, comment la voyez-vous aujourd'hui? Comment voyez-vous l'enfant que vous étiez? Étiez-vous sociable? Étiez-vous plutôt une fille à vivre dans le groupe, à l'école, ou plutôt étiez-vous retirée?
Non, j'étais plutôt retirée, effectivement. Je vois dans ma tête, si je repense à mon enfant, je vois une petite fille qui aurait peut-être aimé justement avoir des contacts, des rencontres, mais qui était plutôt seule et solitaire. Alors, j'ai l'impression que je construisais plutôt toutes sortes de mondes à travers mes jeux d'enfant et... disons, ça me faisait aussi un monde imaginaire à partir vraiment de ma petite enfance, parce qu'il faut dire que ma sœur avait 4 ans, était de 4 ans mon aînée, donc il n'y avait pas cette dynamique qu'on peut avoir quand les enfants sont très proches au niveau de l'âge. 4 ans, c'est beaucoup quand on est jeune.
Quand on est jeune, oui.
Oui, effectivement. Et je pense que... très tôt aussi, j'ai rencontré cette solitude. Vous disiez, effectivement, c'est très juste, j'avais jamais fait le lien entre cette encyclopédie médicale et effectivement une précarité du vivant. Quand j'étais jeune, bon, j'ai eu à faire un séjour à l'hôpital et je pense que ça a déjà, j'avais 6 ans, ça a creusé ce sentiment de solitude et aussi de précarité. C'est-à-dire qu'enfin, j'ai l'impression qu'on est unis, l'âme et le corps sont unis et c'est ça qui est tout à fait naturel. Dans le cas d'un enfant qui a la moindre petite faille du côté du corps, tout à coup, le corps se détache de l'âme et c'est plus évident que tout ça fonctionne ensemble de façon unie et sans avoir cette conscience aiguë que tout à coup, il y a une fêlure, une cassure qui peut se produire dans le quotidien le plus simple, le plus banal, en fait.
C'est comme une incursion de l'essentiel, en fait, dans ce qu'on appelle l'innocence de l'enfance et qui n'est peut-être pas tout à fait un mot bien adapté.
Pour moi, c'est une faille dans la conscience. J'ai l'impression que, en fait, j'utilise parfois l'expression d'une sorte de détachement de la conscience, comme si tout à coup, au lieu d'être parfaitement uniforme, la vie de l'enfant, trouve des aspérités. Tout à coup, il y a du relief, mais un relief inattendu, parce que le relief de la vie d'un petit enfant, ça doit être le moment où on fait tel jeu, où on fait telle chose, où on mange une crème glacée, etc. Donc, des petites joies comme ça. Et tout à coup, quand c'est pas ça les aspérités, mais autre chose, et que ça creuse effectivement un sentiment à la fois de solitude, mais aussi de marginalité, d'écart. Donc là, on dirait qu'on reconstruit le monde et surtout le rapport à l'autre de façon différente ou moins évidente, en fait. Oui.
Mais j'ai l'impression que deux aspects cohabiteraient en vous par rapport à ça, parce que je sais que par ailleurs, vous êtes aussi beaucoup dans le corps, c'est-à-dire aussi beaucoup dans le mouvement physique, dans le sport. Quelqu'un m'a dit, que je ne nommerai pas, mais qu'il pensait que Hélène Dorion deviendrait professeure de gymnastique. d'après la fréquentation qu'elle avait de Hélène Dorion dans sa vie scolaire. Il y a les deux.
Mais c'était peut-être le pendant en fait de ça, parce qu'on vit toujours à travers des paradoxes. Perdant peut-être d'un côté une certaine perfection du corps, parce que le corps, même légèrement, c'était rien de grave, mais même légèrement malade, le corps tout à coup perd sa perfection, son fonctionnement habituel. Alors, bien sûr, ça entre dans une conscience du corps, et ça, il faut dire que la dimension sportive, ça venait directement de mon père, qui est un passionné du sport, de tous les sports. Alors, très tôt, là, évidemment, là, on tombe presque dans la psychanalyse, là, parce que pour faire plaisir à son père, on peut faire beaucoup de choses, on le sait. Alors, on peut se mettre à faire du sport aussi. Et quand ça correspond à quelque chose à l'intérieur de soi, ben là, on continue. Bien sûr, par la suite, il y a eu des choix que j'ai faits. C'est-à-dire de ne pas aller, par exemple, je faisais beaucoup de ski alpin, je jouais beaucoup au tennis. Donc, le fait de ne pas faire ce qu'on appelait une carrière de ce côté-là, parce que j'aimais désespérément étudier, j'adorais ça et je voulais pas qu'on m'arrache à mes heures d'études. Et puis le sport, paradoxalement, m'arrachait à mes heures d'études, m'arrachait à mes livres, à ma chambre où j'étais avec mes papiers, avec mes livres.
Mais il y a eu à un moment donné cet antagonisme que vous avez ressenti, ou étudier, ou aller dehors. C'est aussi un choix entre le dedans et le dehors, le monde autour et le monde intérieur. Mais j'ai aussi l'impression que, parlant de ça, ce sont des choses qui sont réconciliées dans votre poésie, qui est à la fois extrêmement attentive à l'extérieur, au moindre chose de l'environnement immédiat, mais aussi de la géographie intérieure à laquelle cette géographie extérieure renvoie.
Oui, tout
c'est
à fait.
Permanent moi, chez vous.
Oui, mais j'ai l'impression, effectivement, depuis que je suis tout petite, de n'avoir jamais essayé que de réconcilier l'âme et le corps, l'esprit, la chair, parce qu'il me semble que le plus grand défi de l'être humain, c'est quand même à la fois de se souvenir constamment que nous sommes des êtres spirituels, mais incarnés. C'est-à-dire à partir du moment où on oublie cette incarnation, ce défi d'incarner un être spirituel, je pense que là, il y a quelque chose de notre humanité
et
qu'on
spirituel
perd.
Spirituel parce que incarné, c'est aussi
oui.
Très présent dans votre vision, dans celle que vous transmettez.
Oui, et pour moi, je pense que si je pourrais pas dire que l'âme précède le corps ou le corps précède l'âme. Je pense qu'une espèce de déchirure à l'origine peut-être du désir d'écrire tient justement à ce sentiment de séparation, parfois avec l'âme, parfois avec le corps. Il me semble que quand on est bien, c'est qu'on se sent uni, et l'union première est sans doute celle de l'âme et du corps, effectivement.
Alors, il y a une période de la vie qui est assez propice à ce genre de déchirure, entre autres, peut-être, c'est pas obligatoire, mais c'est l'adolescence. Si vous regardez l'adolescence, votre adolescence, quels sont les livres fondateurs que vous pourriez évoquer, qui ont peut-être répondu d'abord à votre quête et à votre désir de comprendre le monde, et d'autre part, qui ont peut-être éveillé votre propre désir de répondre à ce monde-là en écrivant?
Mais je situerais à ce moment-là mon adolescence assez tard, parce que moi j'ai l'impression d'avoir été, dans les livres beaucoup plus tard, en tout cas les livres qui auraient été de ce type. Quand je disais tout à l'heure, j'ai commencé par lire tout ce qui me tombait sous la main à cause justement de mon milieu familial, et d'être évidemment dans toutes sortes d'activités familiales, le sport, etc. C'était plus cette dimension. Donc les lectures, disons que ça a été des moments à l'école. Je me souviens par exemple d'un professeur de poésie qui a enseigné Nelligan, et c'était on avait l'impression vraiment de quelqu'un de tout à fait inspiré, qui récitait des poèmes. Moi, ça a été vraiment un choc. J'avais jamais eu de contact avec la poésie. Ça a été mon premier contact avec la poésie. Et là, bien sûr, ça venait de très loin, et à la fois cette musique des mots et tout un pan aussi d'inconnu, même d'incompréhension, parce que souvent la poésie, évidemment, c'est une sorte d'inconfort par rapport au langage, mais un inconfort qui est fécond, je crois, et qui appelle aussi à une sensation de vertige. Alors moi, tout ça, je l'ai eu effectivement à l'école à travers un professeur qui enseignait la poésie. Par la suite, j'ai commencé à lire tranquillement. Mais quand je dis je situe mon adolescence un peu plus tard, là, c'était vraiment des livres, par exemple, de philosophie. Ça a été d'abord ça, mes fondations, c'est d'abord la philosophie. Jean Rostand, Fabre, donc souvent des entomologistes et des gens qui étaient très, très proches de la nature. Ça a été, je pense, mes premiers chocs au niveau de la lecture, avant la poésie, avant la littérature, avant le roman.
Vous savez que ce n'est qu'au XVIe siècle qu'on a séparé la philosophie de la poésie. Donc, c'est très récent quand même.
Oui, c'est vrai.
Drôle de séparation.
Oui, ben pour moi, effectivement, je ne peux pas... moi, je pourrais pas séparer...
C'est une perception métaphysique de l'être, c'est ça aussi.
Oui, mais en même temps, je pense la possibilité de faire de la poésie un lieu où on apprend à vivre. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Je ne peux pas détacher ma conception de la littérature d'une dimension, j'allais dire éthique, mais métaphysique, bien sûr, existentielle, certainement.
Vous disiez que ça, c'était une adolescence tardive pour vous. Quelle est la façon dont vous auriez spontanément parlé de votre adolescence alors?
Ben, ce que je vois, c'est peut-être ce que voient la plupart des gens qui pensent à leur adolescence. Moi, je vois une espèce de brouillard, ça vous aide pas. Une sorte de quête d'identité, c'est banal de le dire parce que c'est ça, mais en même temps... peut-être que la suite de notre cheminement d'adulte tient à l'éclairage qu'on peut poser sur cette quête d'identité. C'est l'espèce de « qui suis-je ?» Et si je pense à mon adolescence, je pense à des paradoxes, des opposés, un peu comme ça, parce que ça se jouait dans ma vie concrète entre les études, la lecture et le sport, entre le désir disons, de répondre à une sorte de désir intérieur, de m'ouvrir, d'avoir une sorte de spiritualité, de vie intérieure. Il y avait cette solitude qui était là, puis en même temps, toutes les sollicitations de la vie extérieure qui sont là. Et parce qu'évidemment, comme à peu près tout le monde, j'avais des amis qui faisaient des fêtes, qui allaient dans des soirées, qui fréquentaient les bars, toutes choses que je n'ai pas faites à ce moment-là. Alors, évidemment, tout ça pose certains paradoxes. Et moi, je vois mon adolescence comme tendue entre des opposés vraiment qui me paraissaient tout à fait irréconciliables. Et je me demandais vraiment comment j'allais faire pour vivre jusqu'à 30 ans. Et pour, évidemment, réconcilier tout ce qui me paraissait si, si difficile à vivre, le dedans, le dehors, mais tout ce que ça comporte, ce que je sentais à l'intérieur de moi, mon désir d'aimer, de trouver ce qui correspondait pour moi à l'infini, alors qu'on vit dans des limites, dans les limites du fini. On l'a dit, le corps et l'âme, le dedans, le dehors, tout ça en fait. Oui. Et c'était un grand tiraillement.
À quoi vous destiniez-vous à cette époque-là?
Disons, c'était un peu comme sans doute tous les enfants, les adolescents. On écoute ce que disent les parents et... pour ma mère, j'aurais été sans doute médecin. C'était devait être elle qui avait acheté l'encyclopédie médicale.
Et... C'était écrit.
Oui. Et mon père aurait, je crois, souhaité que je sois avocate. Alors, c'était, je pense, les deux
voies. Entre le corps et la parole.
Oui, effectivement, oui. Et comme j'allais à une école où on avait les orienteurs à l'époque, c'était oui. Comme ça. Et... Ben, de toute façon, chaque élève qui entrait dans ce bureau sortait soit médecin, soit avocat. Alors, je les soupçonne d'avoir choisi l'école pour ça. Mais j'ai échappé au désir des parents, parce qu'encore là, c'est toujours une sorte de pression et de tension. On finit, on ne se rend pas compte quand on est à l'intérieur de ça, mais on finit par souvent prendre les désirs et les aspirations secrètes, et parfois, évidemment, pas forcément exprimé de façon très concrète, mais de les prendre pour ses propres aspirations. Alors, j'ai eu, ça je pense c'est une chance, j'ai eu la chance un petit peu plus tard au cégep d'avoir un professeur qui était passionné de philosophie, qui est arrivé un matin en entrant dans la classe et en nous racontant qu'il avait regardé l'eau qui coulait au fond de sa douche et qu'il avait été émerveillé par ce mouvement. Et donc, arrêter un instant de vie, je pense que c'est ça, disons, l'origine peut-être aussi du désir d'écrire, c'est-à-dire prendre un instant, le saisir et être totalement dans cet instant-là. Arrêter de sentir la vie qui nous échappe, de sentir la conscience qui est séparée, mais qui plutôt entre dans une sorte de dimension plus fluide. Alors, lui, en nous demandant pendant 45 semaines qu'est-ce que la philosophie, tout à coup, a éveillé mon propre désir, pas juste de savoir ce qu'était la philosophie, mais plus, disons de façon plus essentielle, ce qu'était la vie, ce qu'était l'être humain. Alors, toutes sortes de questions. On a lu à ce moment-là des philosophes grecs. Ça a été un moment déterminant à partir duquel, je le disais, j'ai eu la chance de me demander, bon, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, être avocate? Parce que médecin, rapidement, il n'était pas question pour moi. C'était pas possible. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et rapidement, ça a été non. C'était.
À partir de quel moment est-ce que vous avez vraiment conscience que vous allez répondre à ce désir de justement d'arriver à nommer les choses et peut-être à vous les approprier avant qu'elles ne disparaissent, et puis aussi à répondre à cette question dont Pierre Neveu dit que vous l'avez poussé au maximum, et vous ne cessez d'ailleurs de questionner la question d'où venons-nous en général, à la fois dans la globalité de l'humanité, mais aussi chacun au plus intime de lui-même. À partir de quel moment est-ce que la poésie, l'écriture déjà, vous a paru être la réponse possible ?
Plus tard, encore plus tard, parce que j'ai fait mes études en philosophie. Et au début, c'est la philosophie qui répondait à mes questions. D'abord, en entrant à l'université, là aussi, des moments très, très importants. Je me souviens d'être entrée dans mon premier cours à l'université. Ensuite, je rentre à la maison et je dis à ma mère, c'était vraiment extraordinaire. Je n'ai rien compris. Et ça, pour moi, c'était fantastique parce que tout un monde s'ouvrait.
Parfois, les gens réagissent comme ça à un livre de poésie.
Oui.
Mais c'est extraordinaire, je n'ai rien compris.
Mais ce serait bien. Mais parfois, ils réagissent en disant, j'ai rien compris, ils ferment puis ils le mettent de côté. Ça, c'est moins. Alors qu'il faut effectivement trouver ça souvent extraordinaire de ne rien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui peut s'ouvrir à partir de cette incompréhension qui peut être aussi très féconde.
Mais on comprend autrement en réalité.
Oui,
par une autre partie de nous-mêmes qui comprend, qui
oui,
est imprimée.
C'est ça. Donc hors de la raison, et c'est aussi d'ailleurs tout cet élément, la raison qui a fait que je suis passée de la philosophie à la littérature, parce que la philosophie me semblait tout à coup échapper une dimension essentielle de l'être humain. On y revient, le corps. C'est-à-dire l'intuition, la sensation. Bien sûr, elle était présente. Je pense à des philosophes comme Merleau-Ponty, c'est très présent. Mais c'était une analyse de la sensation, de l'impression, davantage qu'une façon d'habiter le corps et d'entrer dans l'émotion. Alors, mon passage s'est fait vraiment de la philosophie à la littérature. Et en lisant des philosophes qui étaient près de la littérature et des écrivains qui étaient proches de la philosophie. Donc, oui. Tout ça, c'est fait aussi de façon très unie, si bien que pour moi, je disais, je ne peux pas séparer la littérature de la philosophie. C'est comme si la philosophie donnait à la littérature ses fondations. Et à partir de là, on construit. Donc, la littérature, la poésie sont venues à partir de lectures, à partir aussi de l'écriture. J'ai écrit, comme à peu près tout le monde, adolescente, des poèmes d'amour. Et tout à coup, ben, ça a pris une autre dimension, une autre forme. Et j'ai eu un jour, la révélation des mots comme matière. Et ça, je pense que c'est un moment charnière. C'est-à-dire que tout à coup, les mots ne sont plus simplement un passage, un corridor, mais une matière habitée. Et un peu comme un peintre va voir plus juste le figuratif, mais tout à coup une matière, des formes, des couleurs. Alors ça a été pour moi la même chose, mais avec les mots. Et là, à partir de là, bien sûr, la poésie, l'écriture ont pris une dimension plus importante, plus grande aussi.
Mais la poésie, on dit souvent, la poésie est fulgurance en elle-même, c'est-à-dire qu'il semblerait, en vous écoutant, il me semble qu'elle était fulgurance dans votre vie aussi. Elle est apparue, parce que vous dites plus tard, ça ne peut pas être très tard, parce que vous publiez votre premier livre à 25 ans.
Non, mais pour moi, ça va lentement,
ans.
C'est pour ça.
Alors, entre 20 et 25 ans, il se passe une fulgurance.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être parce que j'y vais plus lentement que ça me paraît long, et parce que ce cheminement s'est fait vraiment à l'intérieur, lentement, par un questionnement. J'ai lu, par exemple, le mythe de Sisyphe de Camus, qui a été pour moi déterminant quand je faisais mes études en philosophie. Donc, c'est de sentir aussi peu à peu les lieux qui s'éveillent à l'intérieur de soi. Une question qui tout à coup prend une importance plus grande et qui trouve pas de réponse. Ça, c'est pour moi un moment déterminant parce qu'elle flotte et il faut que j'arrive à vivre avec cette question-là. Et tout à coup, il y a un autre petit morceau qui se détache et il faut que j'entre en résonance avec lui. Donc, mais c'est vrai que c'est à l'intérieur de ces années-là, 20, j'ai commencé à écrire autour de 80, donc j'avais, c'est-à-dire à publier. Donc j'avais à peu près une vingtaine d'années, oui, finalement. C'est assez tôt. Oui.
Mais effectivement, dans la philosophie, vous savez bien, la définition étant elle-même l'amour de la sagesse, c'est déjà en soi une contradiction, et c'est déjà dans cette contradiction que naissent les questionnements. Dans votre poésie en particulier, il y a de l'amour et de la sagesse, et c'est toujours dès le début, je pense, je relisais récemment votre rétrospective, je n'avais jamais lu vos premiers textes, et donc j'ai recommencé moi aussi par le début, et je me rendais compte à quel point tout était déjà là, sous une autre forme, mais comme un concentré. On dirait qu'il y avait déjà une pelote et que chacun de vos livres suivants a été une manière de tirer un fil de cette pelote.
Oui,
mais
oui,
déjà, dès le début, le concentré, je dirais le précipité au sens chimique du terme, entre l'amour et la sagesse, est là.
Oui, je pense effectivement, vous avez raison, dans mes livres, je vois comme une sorte de spirale, et chaque livre peut être... permet d'entrer ou d'explorer un autre sillon de cette spirale. Quand on dit l'amour et la sagesse, oui, ce qui me vient également, c'est le désir et la connaissance. Alors, oui. Pour moi, c'est l'élan intérieur et l'élan extérieur auxquels répondent effectivement l'amour et la sagesse. Je pense que c'est pour moi la fondation non seulement de l'écriture dans ma démarche, mais aussi, je pense, de ma vie, apprendre à aimer et connaître pour comprendre et lier pour moi à aimer. Je pense que on a grandi sa capacité d'aimer quand on s'ouvre à la compréhension à tous les niveaux, au niveau intime comme au niveau plus intellectuel. Et pour moi, je pense que tout tient effectivement à ces deux dimensions. de l'être, l'amour, la sagesse.
J'ai choisi l'amour et la sagesse parce que ça, c'est le mot philosophie, mais en même temps parce que, bien sûr, ça fait deux catégories à l'intérieur desquelles on pourrait évoquer beaucoup, beaucoup d'autres mots. Mais je voudrais revenir au premier livre. C'est quand même les deux premiers livres, par exemple, qui sont La Fondation. Vous aviez déjà publié dans des revues avant 1983. Donc, l'intervalle prolongé. Et La Chute requise.
Alors, oui, moi, parler du premier livre m'incite tout de suite à parler du deuxième, auquel je pense qu'il répond tout à fait. J'ai l'impression que le premier livre est, disons, une sorte de concentré, vous le disiez, mais très, peut-être très organique dans la matière et avec aussi une dimension peut-être plus abstraite. Là, j'ai l'impression que j'étais davantage dans, encore dans le concept. Alors que le deuxième, hors champ, là, j'ai l'impression qu'on va vraiment dans le corps, dans l'incarnation du concept, c'est-à-dire dans le mot, dans l'émotion, dans la sensation. Et pour moi, l'un répond effectivement à l'autre. Le premier porte sans doute encore toutes les traces d'un questionnement qui commence à naître, qui s'élabore peu à peu, le désir aussi de rejoindre, je pense notamment dans le deuxième texte, La Chute requise est très présent, est vraiment essentiel. Peut-être qu'on commence à écrire aussi comme une façon d'appeler non seulement le monde à soi, mais aussi d'appeler l'autre pour avoir cette rencontre ultime. Alors, je pense qu'il y a cet élément.
Ce premier texte aussi a une sorte de complication. On voit dans cette matière une recherche justement d'arriver à transmettre quelque chose d'autre par la forme. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît petit à petit. Vous consacrez, je dirais, au fil des livres à une simplification, au contraire, dans la forme et aussi à une lenteur qui s'installe parce qu'il y a comme un zoom qui se fait sur des parties ou des sujets que vous traitez plus et que vous traitez aussi avec une simplicité de forme. Donc ça, c'est un chemin qui est constant, me paraît-il, sur une vingtaine d'années.
Oui, c'est vrai. Rapidement, quand j'ai publié mon premier livre, pour moi, l'écriture est d'abord un cheminement intérieur. Ce qui m'intéresse, entre autres, dans l'écriture, c'est ce que ça va m'apprendre. Et en tant qu'être humain, comment écrire va m'apprendre à grandir, va m'apprendre à, bien sûr, être un meilleur être humain, va m'apprendre à aimer mieux, davantage, etc. Et rapidement après le premier livre, donc, m'est apparue la nécessité d'une sorte de dépouillement intérieur, d'aller non pas vers un trop-plein, mais au contraire vers un dénuement. Il m'a semblé, et ça pour moi, l'écriture est tout à fait liée à la vie, à une démarche intérieure et même spirituelle, en fait, puisqu'il s'agit pour moi d'aller vers un dénuement, vers la simplicité, vers la perte parfois de ces repères qui sont des façons souvent de se protéger, donc d'empêcher une sorte aussi d'accomplissement intérieur. Et entre le premier livre et le deuxième, il est vrai qu'il y a vraiment cette dimension et ça s'est manifesté non seulement dans le contenu, mais aussi dans la forme. Souvent, moi, j'ai toujours un peu de mal à dire que la poésie doit être compliquée, touffue, etc. J'ai eu l'expérience notamment dans des traductions où on me demandait « mais quel mot je prends ?» et je disais toujours au traducteur « on prend le mot le plus simple, le plus usuel, parce que ça fait partie de ma vision de la poésie et parce que je relie la poésie aussi à la vie, comme je le disais, à une démarche d'existence. Et pour moi, pour apprendre peut-être à mieux vivre, on doit essayer d'aller vers cette simplicité, ce dénuement, ce dépouillement qui correspond dans l'écriture, oui, à un dépouillement de la forme, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas un travail sur le langage, parce que travailler le langage dans le sens de la simplicité du dépouillement, c'est aussi exigeant que de travailler à l'intérieur de soi pour aller vers une sorte de simplicité, de vulnérabilité, de fragilité également.
Mais je crois que pour avoir beaucoup lu et rencontré beaucoup d'écrivains, mais je pense que c'est un cheminement qui est quasiment obligatoire. Je n'ai pas vu de cheminement d'écrivain qui aille en se compliquant. Ou alors il y a un problème, mais évidemment ici c'est beaucoup plus visible ou plus spectaculaire à cause même du concentré de la forme poétique, parce que on le voit plus rapidement. Mais même les romanciers ont cette épure qui arrive avec l'âge aussi, et puis parce que avec aussi cette certitude, et ça sera aussi une question de savoir qu'on peut pas tout dire dès le début. Et que finalement, ça prend un livre, encore un livre, encore un livre. Et d'ailleurs, comment viennent les livres les uns après les autres chez vous? Qu'est-ce qui fait que le précédent produit le prochain?
Non seulement, effectivement, on ne peut pas tout dire, mais ce n'est pas en essayant de tout dire qu'on arrive à tout dire. Donc, c'est parfois aussi en exprimant peu qu'on arrive à évoquer beaucoup. Cette question aussi de la simplification touche à une autre dimension, c'est-à-dire qu'un écrivain travaille aussi le langage comme une matière et doit transformer cette matière-là. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, d'arriver à une sorte de banalisation du langage ou de forme qui soit simple parce que banale. Elle doit être toujours porteuse de ce qu'il y a dans le langage qui dépasse la langue elle-même. Et c'est le défi, je pense, d'un écrivain d'arriver à travailler énormément en faisant sentir de moins en moins ce travail, d'où la tendance à la simplicité, effectivement. Sinon, pour l'autre question, pour un livre, comment un livre naît de l'autre? Dans mon cas, j'ai toujours l'impression qu'un livre laisse des fissures ou certaines failles d'où s'écoule la possibilité d'un autre livre. Peut-être que c'est justement cette petite fenêtre qui tout à coup s'ouvre et me permet d'aller sur le sillon suivant. Et ça, là-dessus, c'est simplement l'écoute, l'intuition, effectivement, qui fait qu'on va être porté vers l'autre livre. C'est-à-dire qu'on n'est jamais ailleurs, mais en même temps, oui, on va ailleurs à partir d'un livre. C'est sans doute la capacité aussi de renouveler sa propre vie, d'être toujours dans un processus de transformation. Donc, en même temps, de laisser le livre transformer les semences qu'il a portées et tout à coup de récolter ce qui a pu émerger dans ses failles.
Avez-vous, c'est une question qui me vient maintenant, avez-vous cette sensation assez courante qu'une publication est une sorte de malentendu aussi? Parce que jamais un livre ne recouvre tout ce qu'on espérait de lui, et jamais, malgré tout ce qu'on y met, il n'est perçu comme on l'a donné, parce que évidemment il y a, et heureusement, la liberté de celui qui reçoit, de ceux qui lisent, que ça soit les professionnels ou que ça soit le public tout simplement, et qu'il y a toujours un décalage, finalement une faille, que vous appelez une faille, qui peut parfois être un gouffre, mais disons une faille, entre le désir et les raisons du désir de mettre un livre au monde et la réception qu'on en fait. Est-ce que ce malentendu existe? C'est pas celui-là qui nous fait avancer, par exemple, justement, qui fait qu'on continue à écrire?
Oui, non. Moi, j'ai jamais vécu le rapport au livre et à la publication comme un malentendu. C'est pas du tout une question qui m'a préoccupée, qui me préoccupe absolument pas. Ce qui m'importe dans le livre, c'est qu'il puisse être partagé. À partir de là, ce ne sont que d'heureuses surprises. S'il est accueilli, je pense spontanément à Jour de sable, notamment, où on peut, dans certains livres, ça a été le cas pour celui-là, se poser certaines questions, parce qu'il y avait certaines dimensions autobiographiques dans ce livre. Donc, forcément, il y avait des questions qui résonnaient à l'intérieur de moi. Et là, c'est peut-être la première fois que je me suis posé des questions sur la réception, sur... Pour moi, c'est pas de l'ordre du malentendu. Il y a eu que d'heureuses surprises. C'est-à-dire qu'un livre fait naître tous les possibles. Et ça, je trouve toujours que c'est de l'ordre du partage, de l'ordre du petit miracle aussi, qu'un livre qui vient d'un univers individuel, tout à coup, trouve une résonance dans des mondes, des univers personnels autres, trouve des complicités et trouve à faire naître, à faire émerger et partager des questions, parfois des réponses, à faire que des nouveaux chemins puissent se développer à partir de là. Alors pour moi, quand je publie un livre, c'est vraiment... C'est l'image qu'on connaît très bien de la bouteille à la mer. Et oui. Qu'elle soit accueillie, recueillie, qu'elle trouve une résonance, qu'elle soit partagée.
Et ensuite, il vit sa vie.
Oui, parce que qu'il soit compris, c'est jamais une question que je me suis posée. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que j'ai compris tout ça? Absolument pas. Pour moi, je pense que de toute façon, un livre, déjà le livre me déborde ma propre compréhension de ce que je peux en avoir. Alors, c'est tout à fait naturel qu'il poursuive son chemin dans ce débordement et heureux même.
Mais justement, c'était l'autre question. On va reprendre rapidement le cours desquels, parce qu'on ne peut pas faire le tour de tous les livres, mais au moins les pierres blanches qui sont sur votre chemin long. Seuls les autres nous disent qu'on a écrit, finalement, après tout.
Ben, seuls, je ne sais pas, il y a nous quand même.
Oui.
Disons que c'est un
peu... Mais il y a tout ce qu'on ne sait pas de ce qu'on a écrit.
C'est un peu comme la vie. Si je reste toute seule sur mon île déserte et je rencontre personne de toute ma vie, c'est sûr que je ne saurais pas qui je suis. Parce qu'en même temps, il y a une dimension qui est celle de la rencontre. C'est-à-dire, quand le livre est lu et que quelqu'un vient me dire comment ce livre-là vit à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle... ce qu'il me donne aussi, c'est un contour de ma propre identité, de mon monde, c'est un éclairage. Il me renvoie quelque chose de mon propre univers. Et donc, il complète mon univers. Et encore là, si on rencontre personne dans sa vie, je pense qu'on ne sait pas vraiment qui on est. La question de l'identité ne se pose que par rapport à l'autre. Seul, on n'a jamais aucun problème d'identité. C'est l'autre qui vient tout à coup faire résonner différemment ces questions d'identité, mettre un contour... parfois comme une lumière, parfois comme une ombre, mais peu importe, tout à coup, on définit un lieu, on définit un espace. Et pour moi, c'est vraiment de cet ordre-là, de l'ordre de la rencontre. Alors bien sûr, moi-même, relisant mes livres, parfois à certaines occasions, comme une anthologie, etc., bien sûr, ça me dit à moi-même certaines choses que je ne savais pas lorsque je les ai écrites. Et parce qu'on écrit, je pense, bien davantage devant soi que derrière soi. Lorsque j'écris sur ce que je ne sais pas. J'écris jamais des choses que je sais. C'est comme une petite lampe, mais qui me devance constamment et qui éclaire à mesure le chemin devant moi. Moi, ça m'intéresse jamais d'écrire sur ce que je sais, même s'il y a des éléments très, très, disons, concrets, comme dans le cas de Jour de sable, mais c'est toujours sur des choses que je ne sais pas. À partir de là, je vais en découvrir de nouvelles. Il va y avoir de nouveaux éléments qui vont se préciser ou même se donner à certaines relectures.
Mais d'autant que très rapidement, à partir de deux livres qui sont, je dirais, deux livres qui, pour moi, sont des livres où vous prenez votre dimension telle qu'on va la voir se développer, telle qu'on la voit, je dirais, peut-être aboutir avec ravir les lieux à partir des corridors du temps et surtout d'un visage appuyé contre le monde où le mot dimension n'est pas choisi par hasard, c'est que il y a à partir de ces livres-là une cette confrontation qui est typiquement la vôtre entre le plus grand que soi et l'écho qu'on en écoute au plus profond de soi-même. Et vraiment à partir de ces deux livres-là, qui datent de 88 et 90, donc là aussi, c'est tout un cheminement maintenant, on entend vraiment cette dimension-là. Et dès ces livres-là, vous avez toujours été, dès le début, une poétesse dans le monde, en rencontrant les personnes, publiée en France aussi, dès Un visage appuyé contre le monde. Donc, est-ce que vous les percevez comme ça aussi, ces livres-là ?
Oui, tout à fait. Et il y a aussi des éléments très concrets. Je pense qu'il y a de nouveau dans ces livres-là. C'est qu'auparavant, il y avait beaucoup de temps. Quand vous dites la dimension, pour moi, j'entends à la fois l'espace et le temps, la dimension spatiale et la dimension temporelle. Je pense que jusque-là, il était beaucoup question de temps. Rapidement, j'ai eu l'impression qu'une vie, c'était quand même, somme toute, du temps qui nous était donné et qu'il fallait effectivement entrer totalement dans chaque instant de vie. J'ai senti très rapidement combien un moment de vie était précieux. Et ça m'a pas quitté. Mais il y a une autre dimension qui est tout à coup arrivée, qui a rencontré cette dimension temporelle, c'est l'élément spatial. Et ce qu'il y a, je pense, de nouveau, alors comment, à partir de l'intérieur de soi, aller à la rencontre de l'extérieur, eh bien, c'est évidemment en ouvrant à cet élément spatial qui tient au lieu, bien entendu, à la rencontre de lieux extérieurs qui correspondent à des lieux intérieurs. Dans le cas des corridors du temps, ça a été un premier voyage en Europe en 87. Et là, c'était la première fois que j'allais en Europe, comme je disais, et pour moi, ça a été une découverte, disons, la sensation tout à coup de pouvoir ouvrir, dérouler le fil, mais un fil qui était une route qui m'amenait vers un ailleurs tout à coup inépuisable. Et à l'intérieur de cet ailleurs, il y a eu un lieu très important, Berlin, qui était à l'époque encore sous le régime. Et pour moi, Berlin était une sorte de métaphore de ce qu'on pouvait vivre à l'intérieur, c'est-à-dire un lieu séparé, qui donnait à vivre deux réalités très différentes. Et donc, la séparation d'avec soi, la séparation d'avec l'autre, bien sûr, toutes les cloisons qu'on peut mettre aussi et qui nous empêchent, disons, d'aller à la rencontre et d'être unis avec soi-même, toute cette dimension. Tout ça a continué à s'ouvrir, pour quand même arriver à un point qui me semble aussi charnière dans Un visage appuyé contre le monde, où là, il y a vraiment la présence de l'infini à l'intérieur du fini, du plus grand à l'intérieur du plus petit. Donc là commence cette sorte de réconciliation dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, où l'instant rencontre l'éternité, où toutes les contradictions commencent à se résoudre d'une certaine façon, mais en trouvant une sorte de troisième terme, c'est-à-dire sans avoir à choisir entre l'un et l'autre, parce que pour moi, je pense depuis toujours, je suis très rébarbative au choix, à choisir entre une chose et l'autre. Pour moi, il y a toujours un troisième terme qui va réconcilier et qui va contenir les deux premiers. Et pour moi, cette dialectique est très importante.
J'avais l'impression néanmoins que à partir de ces deux livres-là, les autres semblent plus ou moins quand même consacré soit plutôt à l'espace, soit plutôt au temps, avec une attention particulière et la filiation, par exemple, qui existe dans les corridors du temps, on va la retrouver dans la forme d'une réflexion sur l'histoire, avec un grand H, dans les murs de la grotte. Et puis, bien sûr, pour moi, ces livres-là ont une filiation entre eux, un visage appuyé contre le monde et ravir les lieux. Même s'ils sont à distance, mais il me semble clore un cycle, parce que dans Ravir les lieux, paru en 2005 et largement couronné à la fois par le prix Mallarmé, mais aussi par le prix du gouverneur général 2006, il y a cette séparation entre les différentes choses que vous nommez. En plus, vous vous rapprochez avec un zoom très très précis. Et cette immensité qu'il y a dans un visage appuyé contre le monde devient quelque chose de plus précis, avec un regard bien, bien précis, et évidemment revient sur le visage, puisque la dernière chose que l'on scrute et dans laquelle on se trouve soi-même dans Ravir les lieux, c'est le visage des autres, dans lequel on va chercher le sien. Donc il y a un cycle qui pour moi se finit, mais chacun des livres néanmoins sur votre cheminement, en gros entre 88 et 2005, se consacre plutôt à l'étude du temps ou plutôt à l'étude de l'espace, de manière de plus en plus précise à chaque fois.
Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a sans doute, peut-être que j'explore certaines thématiques qui tiennent davantage à la temporalité, donc à notre rapport à l'existence dans le temps, et d'autres à notre existence dans des lieux. Parce que c'est vrai que peu à peu, avec les voyages, tout ça, le lieu a pris de plus en plus d'importance. Il m'a semblé qu'une façon justement de réconcilier, quand je dis réconcilier, c'est aussi une forme d'apaisement, c'était d'entrer dans des lieux. Bien sûr, l'autre est un lieu, nous-mêmes, nous sommes un lieu, mais il y a aussi cette terre qui est là, et autant dans le passé que le présent, il y a des lieux qui contiennent l'histoire, et toute cette interrogation a pris de plus en plus d'importance. Bien sûr, c'est pas conscient, vous me le dites, et là j'en prends conscience. Les murs de la grotte étaient plus une dimension historique, mais à l'intérieur de ces grands axes, parce qu'il y a une dimension peut-être verticale, une dimension horizontale, le temps serait la verticalité et le lieu serait l'horizontalité, et peut-être que je cherche le point focal qui serait le point de rencontre, la jonction entre ces deux grands axes, qui est peut-être là ce lieu où on se sent complètement uni avec soi-même et avec le monde.
Mais justement, votre vie personnelle s'est un peu construite à cette image-là. À partir du moment où vous avez commencé à voyager, vous l'avez dit, vous voyagez beaucoup pour rencontrer les autres, mais aussi pour transporter votre poésie. Votre poésie voyage, puisqu'elle est traduite dans une quinzaine de langues. Et donc, vous êtes vous-même entre l'enracinement dans un lieu que vous avez choisi, dans les Laurentides, et l'ailleurs dans lequel vous allez physiquement, mais dans les échos duquel vous êtes aussi, parce que vous en rapportez les échos. C'est ce point de jonction-là, oui, se fait également dans votre propre vie. Quelle est l'importance de l'ailleurs, justement, de l'ailleurs et de l'ici, et de cette confrontation entre l'ici étant l'endroit où est notre corps. Voilà, l'ici, c'est là où nous sommes. Et puis après, l'ailleurs, tous les ailleurs commencent à partir de ce moment-là. Mais c'est un thème important. Quelle est cette importance dans votre vie et aussi dans votre inspiration aujourd'hui?
Moi, je pense, je me sens un peu peut-être tendue entre des extrêmes, effectivement, parce que par le voyage, c'est plutôt des grandes villes, des lieux. Donc, tout ça m'amène à un questionnement aussi sur la civilisation, sur l'histoire. Tandis que de façon plus personnelle, effectivement, je vis au bord d'un lac, donc c'est très calme. C'est un rapport aux éléments les plus dépouillés, les plus simples, les plus organiques. C'est l'eau, l'air, le feu, la terre, là. Donc, je pense que pour moi, d'expérimenter, sans bien sûr le vouloir, mais par ma vie même, d'expérimenter des extrêmes comme ça, je cherche encore ce point de jonction, parce qu'en fait, entre l'ailleurs et l'ici, il s'agit toujours, je pense, de faire en sorte que le lieu porte tous les autres, que ailleurs on soit ici et que dans l'ici on soit dans cet ailleurs. Je pense que les mots nous amènent aussi dans ces espaces de qui sont un peu l'imaginaire. Alors je pense que c'est une façon aussi d'ouvrir des lieux intérieurs en fait.
Les jours de sable est pas mal une jonction en réalité, il me semble aussi, parce que les jours de sable, donc 2002, et parce que c'est un récit, donc c'est une histoire que vous racontez. Donc c'est une forme littéraire différente, et vous y remontez le cours du temps de votre propre vie pour retrouver le lieu de l'origine, de l'empreinte de vos pas d'enfant dans les plages du Maine, évidemment avec toute la symbolique qu'il y a. Donc il y a cette jonction entre à la fois remonter les couloirs du temps et puis retrouver les premières traces sur les lieux.
Oui, oui, je pense qu'il y a eu, et effectivement, c'était un écho à cette fameuse question « d'où venons-nous ?». J'ai l'impression que dans ma démarche, il y a eu ces trois questions essentielles. Qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous? Et si on parlait de temps et d'espace à travers différents livres posent aussi certaines questions comme ça. Ceux qui sont plus proches de dimensions temporelles tiendraient davantage à qui sommes-nous et d'où venons-nous à partir du lieu. Et à partir de là, bien sûr, il y a un questionnement de l'origine, toujours pour être dans cette compréhension du présent. Jour de sable était pour moi, disons, une façon de faire résonner le passé dans le présent. Et pour moi, l'intérêt premier n'était pas forcément la dimension autobiographique, mais plutôt de voir ce que la petite histoire de chaque vie, ce qu'elle porte d'une histoire plus large, de l'histoire de l'humanité, de l'univers,
vous faites des liens,
etc.
D'ailleurs, oui, de façon, entre des oui, figures de, historiques.
Oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, c'était à travers une dimension narrative. Là, il y a vraiment une histoire qui est avec l'enfance. Et par exemple, il y a certains éléments narratifs, certains faits, certains événements qui sont racontés non pas une fois, mais parfois une deuxième fois, une troisième fois. Mais bien sûr de façon différente, parce qu'il s'agissait pour moi d'entrer non seulement dans l'origine, mais aussi dans le processus de la mémoire. Comment fonctionne un peu notre mémoire quand on se souvient de certains événements du passé? On s'en souvient d'une certaine façon à un certain moment de notre vie. Et si on a à les raconter à nouveau à un autre moment, ça va être tout à fait autre chose. Donc, à partir de là, ce qui m'apparaît intéressant, c'est cette transformation constante du récit et donc qu'on a une origine précise, mais l'identité qui se construit à partir de cette origine est toujours mobile. Donc, il n'y a pas d'identité fixe, il n'y a pas d'identité figée, elle est toujours renouvelée par le sens qu'on a de l'histoire et dans ce cas-là, de notre propre histoire, en fait. Et en fait, Jour de sable mettait un peu, à l'épreuve ces différentes dimensions. Mais le but ultime, c'était bien sûr que des lecteurs puissent, à partir de cette histoire-là, entrer dans leur propre enfance et éventuellement avoir envie d'aller eux-mêmes vers ce point d'origine.
Vous aviez beaucoup d'appréhension de passer du style poétique, de la poésie, à la prose, mais vous l'avez fait avec, bien sûr, non seulement avec succès, mais avec une très grande beauté. Je ne sais pas si ça a été une facilité, mais maintenant, vous avez l'intention de poursuivre puisque vous écrivez un roman. Donc, le passage s'est fait. Comment s'est-il fait pour vous ? Quelle était cette différence fondamentale entre la poésie et la prose et ce chemin que vous avez parcouru?
Bien, ça s'est fait de la même façon que j'ai commencé à écrire de la poésie, c'est-à-dire je ne m'en suis pas vraiment rendu compte.
C'est la meilleure façon de faire les choses.
Oui, oui, et de s'appuyer davantage sur l'intuition Et sur l'écoute, en fait, parce que pour moi, écrire, c'est toujours davantage écouter que s'exprimer. C'est toujours davantage être disponible qu'être volontaire. Alors, de la même façon que j'ai commencé à écrire de la poésie et qu'un jour, j'ai ouvert des cartons qui contenaient mon premier livre, dans le cas de la prose, j'avais jamais écrit de roman auparavant. J'avais pas des textes, des nouvelles qui traînaient dans mes tiroirs. C'était véritablement le premier livre écrit. Bien que, quand même, dans ma poésie, il y avait l'exercice de la prose était là, un visage appuyé contre le monde, et quand même un livre où il y a quand même beaucoup de prose. Dans mes livres, le vers alternait avec la prose. Donc, c'était une écriture qui m'était quand même familière. J'écrivais des essais depuis longtemps aussi. Donc, oui. ce fil de prose était quand même présent. Mais pour raconter, plutôt qu'entrer dans le poème, et bien, ça s'est fait vraiment naturellement. J'étais, et c'était vraiment un moment très précis où je marchais dans le sable et ayant passé mes enfances à la mer, pour moi, le sable était quelque chose, évidemment, qui évoquait, mais là, on a toute la symbolique du sable, mais pour moi, c'était réel. Donc, la sensation du temps qui entre vraiment par le corps. Et puisque ça déroulait un fil d'événements, alors il m'est apparu vraiment naturel de l'écrire de cette façon, sans par la narration, c'est-à-dire qui n'était pas la saisie d'un instant de présence comme est le poème. Le poème pourrait être une sorte de précipité. Par exemple, s'il y a un arbre et j'écris un poème sur l'arbre, eh bien, dans le poème, on va devenir l'arbre. Si j'écris un récit, une nouvelle, un roman, ben je vais raconter l'arbre. Donc, d'une certaine façon, me tenir un peu à l'extérieur de l'arbre et demeurer dans une sorte de distance pour en faire ressentir toutes les dimensions. Donc, ça a été le cas aussi pour Jour de sable. Mais ce qui m'amène quand même à préciser, quand je parlais de la mémoire, que pour moi, ce n'était pas du tout une mémoire intellectuelle qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était la mémoire de la sensation. Oui. Comment est-ce que tout à coup...
Sensitive, oui.
Oui, tout à fait. La mémoire des sens, la mémoire de la chair. Parce qu'il me semble que la vérité aussi de l'enfance tient au corps, à la sensation qu'on a d'avoir été enfant, de pouvoir retrouver ce petit corps dans des sensations immenses. On le raconte souvent, comment tout à coup un lieu qui nous paraissait immense et tout petit, eh bien c'est évidemment des mémoires qui sont physiques et elles sont à ce niveau-là beaucoup plus importantes que les mémoires intellectuelles, que la mémoire rationnelle en fait, qui raconte comme telle et qui essaie de se souvenir très fort. Pour moi, il n'y a pas eu en ce sens-là d'effort.
On pourrait parler des heures encore. J'ai remarqué qu'il y a des éléments qui sont très importants, qui reviennent comme ça aussi d'un livre à l'autre. C'est l'élément eau. Vous parliez tout à l'heure du lac au bord duquel vous vivez, mais ce lac est présent dans les livres aussi, dans beaucoup de livres avec son observation. Le ciel au-dessus, d'ailleurs, ravir les lieux se finit aussi là-dessus, sur le fait que finalement le ciel ravit tous les lieux parce qu'il les contient. Il y a cette présence. Et bien sûr, il y a Portrait de mer, qui est 3 ans avant Jour de sable, une traversée. Là, si vous vous souvenez de la petite fille que vous étiez dans le sable, sur une berge, là, c'est une traversée d'un monde à un autre et sans doute d'un temps à un autre aussi, à l'intérieur même de vous-même, de votre propre poésie, et puis d'un siècle à l'autre, parce que c'était le tournant du 21e siècle aussi à ce moment-là. Mais il y a toute cette notion de l'eau, de la fluidité, qu'on trouve. Et puis l'autre élément, c'est la pierre, qu'on trouve aussi parsemée dans l'eau comme ça, autant dans le sable originel, je dirais, mais aussi dans la pierre, dans ce qu'elle a de statufiant, et autant il y a cette bataille dont on évoquait tout à l'heure entre l'amour et la sagesse, autant il y a une sorte de bataille entre la pierre et l'eau.
Oui, c'est vrai, effectivement. Parce que la pierre est peut-être la cristallisation ou certaines impossibilités, et l'eau vient rappeler sans doute la fluidité.
C'est toujours l'eau qui gagne. Hein?
C'est l'eau qui gagne.
Dans la vraie vie.
Ben, je suis contente.
Non, mais dans la vraie vie, comme.
Oui.
Peut-être dans vos livres.
Oui, non. Ben, je veux que l'eau gagne.
Oui, ben,
c'est
oui.
Mieux. Parce qu'effectivement, l'eau pour moi, c'est le passage, c'est ce qui permet aussi de traverser. Mm-hmm. Quand j'étais enfant et qu'on allait à la mer, pour moi, l'eau, c'était d'abord une dimension temporelle. Je m'éblouissais toujours de voir que les vagues avaient continué, même en mon absence. Elles avaient continué à marquer le temps, à inscrire du temps, vague après vague, à créer cette érosion. Et bien sûr, l'eau, c'est ce qui vient envelopper. C'est un peu le rêve de fluidité, en fait, de perdre toute cette rigidité, cette impossibilité de la pierre, c'est-à-dire du durcissement. Pour moi, bien sûr, c'est d'arriver à un lieu où on est cette transparence de l'eau, où on est l'eau est un conducteur, évidemment, donc on traverse, on atteint, mais en même temps, il y a la force de l'eau qui est extrêmement...
Invincible
aussi, bien plus que la pierre. L'eau gagne, effectivement. Oui. Donc, je pense qu'on a des leçons à prendre de ça. Mais c'est vrai que pour moi, la nature, les éléments les plus simples, je pense que la contemplation de la vie dans ces éléments les plus simples, un arbre qui tout à coup change de couleur avec les saisons, une feuille qui pousse, l'eau qui passe, les vagues. Je pense qu'on a tellement effectivement à apprendre de ça dans le plus grand, en même temps comme civilisation, non seulement comme être humain individuel, mais comme civilisation. Pour moi, il y a des moments qui réconcilient profondément et qui nous rappellent ce qu'est le bonheur, ce qu'est le bien-être, ce qu'est le sentiment d'être unis au monde et de faire partie de tout ça. Il y a des questions écologiques, bien sûr, qu'on peut penser. Mais si on arrive à faire sentir à quelqu'un ce qu'est un arbre, la vie qu'il y a à l'intérieur d'un arbre, il me semble qu'on a passé des tonnes de discours aussi et qu'on arrive à la sensation de partager un mètre carré de terre avec cet arbre-là, avec l'eau, avec tous ces éléments.
Je voyais dans Ravir les lieux, qui est votre dernier livre de poésie paru à ce jour, une sorte d'allégorie aussi qui reprend ces deux symboles entre l'immobilité aussi de la pierre et la fluidité extrême de l'eau, parce que c'est un livre qui tente... Enfin, qui commence par tenter de fixer ce qui nous échappe, et puis qui finalement lâche prise pour rejoindre l'autre, justement. Et il y a cette dualité dans ce livre-là également, avec une épure là, aussi dans le fait que on est dans l'ici et maintenant, mais sont évoquées des figures tutélaires importantes d'écrivains, de oui. philosophes à travers les siècles.
Oui.
Et puis il y a évidemment dans ce livre-là une épure qui arrive presque à sa forme aboutie.
C'est un livre qui a été écrit à partir j'allais dire à partir des sillons laissés par Jour de sable. Mm. Donc, le début de Ravir les lieux, effectivement, il y a cette question de l'origine même, de l'enfance. Et tout à coup, on déborde, on va dans les villes, donc la civilisation, tout ce qui résonne, toutes ces questions que nous pose l'histoire contemporaine, les événements quotidiens qui se passent. Et il y a aussi tout ce monde de figures tutélaires, effectivement, des livres, ce que l'imaginaire arrive non seulement à construire à l'intérieur de nous, mais aussi, je pense, à préserver. et parfois même peut-être à consoler ou à sauver même comment tous ces mondes imaginaires peuvent nous guider. Et ensuite, on termine, vous l'avez dit, par les visages. Donc, à la fois le plus grand et le plus petit, ce sont bien sûr les visages intérieurs, c'est-à-dire tous ces personnages intérieurs que l'on porte et à travers lesquels on se définit comme être humain.
Il y a deux livres que je voudrais évoquer rapidement aussi, je ne voudrais pas les oublier. Vous disiez que vous n'écrivez que sur ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, mais les essais, c'est peut-être le lieu où on écrit tout ce qu'on sait, justement. Et vous avez écrit une partie, en tout cas, c'est un peu plus ça, la littérature, c'est vraiment ce qu'on ne sait pas. Et l'essai en tant que tel, c'est ce qu'on sait, le peu de choses qu'on sait, qu'on a appris. Et vous nous avez transmis une partie de ce que vous aviez appris au long de votre chemin, sous l'arche du temps que j'évoquais tout à l'heure, que vous avez écrit sur... En fait, ce sont vos réflexions aussi sur l'écriture et la poésie sur une vingtaine d'années.
Mais c'est pour ça probablement que ça m'a pris tellement de temps à les publier. Parce que...
Il y en a qui, dès qu'ils savent quelque chose, ils le publient.
Oui, c'est ça.
Ça dépend des gens.
Moi, je me demande si je le sais vraiment. Je trouve le doute très, très fécond. Et parce que l'essai, c'est quand même particulier. Parce que l'essai, justement, pose quelque chose de fixe. Alors, c'est sûr que moi, je résiste à ça parce que là, on n'est plus dans l'eau, on est sur la pierre. Alors, il y a quand même beaucoup de doutes dans ça. C'est un questionnement, effectivement, sur l'art, sur la littérature, sur la poésie, sur la place qu'on donne et qu'on devrait peut-être donner à la littérature dans nos sociétés et bien sûr à l'intérieur de nous. Et ça s'échelonne, effectivement, sur une vingtaine d'années. Donc, les questions se renouvellent, trouvent évidemment d'autres échos de façon plus présente qu'il y a 20 ans. Évidemment, il y a des questions scientifiques, comment tout à coup la science, avec tous ces développements et toutes ces incursions aussi dans ce qu'on sait, dans le projet d'être humain, toutes les incursions scientifiques. Alors, où est la place de la littérature dans ça? Et parce que, évidemment, je pense qu'un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui est impliqué dans ces questions, dans toutes ces questions de civilisation. On pose souvent la question de l'engagement de l'écrivain, de cette résistance qu'on peut faire à un monde qui est souvent tributaire de l'image et de l'avoir, du paraître, tout ça. Et pour moi, c'était un peu, non pas ma réponse, mais ma façon de porter ces questions-là.
Mais il y a aussi un livre qui est paru, votre dernier livre paru, qui est un livre pour enfants, La vie bercée, aux 400 coups. Ça aussi, c'était une aventure tout à fait nouvelle, encore quelque chose que vous ne saviez pas. Et j'ai lu le livre avec beaucoup de plaisir et en vous retrouvant tout entière. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un conte illustré, mais vous n'avez pas cédé au langage ou à votre façon d'écrire habituelle. Est-ce que comment vous avez abordé le désir ou la nécessité de transmettre votre monde à des enfants, j'imagine assez petits, peut-être 6-8 ans?
Oui. Mais pour moi, cette question quand même d'expérimenter aussi, d'entrer dans différents genres littéraires, c'est aussi une façon de, je pense, de me secouer, de rester un peu dans cet état de vertige que je trouve nécessaire et fécond, de pas m'installer dans ce que je connais, dans une forme que je connais, donc de la renouveler aussi en allant vers d'autres genres, le roman, l'essai, et là, le conte pour enfants. Ce projet est né en fait d'une invitation que j'avais eue à publier pour les enfants, et à ce moment-là, j'avais refusé parce que je n'en sentais pas la nécessité intérieure et que c'était pas, pour moi, le passage aussi à un autre genre doit se faire de façon naturelle, aussi naturelle que nécessaire. C'est ce qui, pour moi, en fait la nécessité. Donc, un peu plus tard, en fait, j'imagine que l'idée a germé, s'est promenée à l'intérieur de moi et procède sans doute aussi d'autres dimensions, de ce désir que j'ai de faire partager l'expérience de la poésie. Je trouve souvent que la poésie est limitée et parfois se limite aussi d'une certaine façon. Alors, je pense qu'il m'a semblé important aussi de proposer l'approche poétique à des jeunes, enfants, adolescents, et même parfois il y a des adultes qui sont allés vers ce livre et en ont fait leur première approche de la poésie, alors que c'est pas une écriture pour enfants, comme vous le dites très justement. Je me suis pas déplacée dans ce sens-là, parce que pour moi, j'imagine que d'une certaine façon, la simplicité du langage, le dépouillement de la forme sont déjà posés. Donc à partir de là, bien sûr, il s'agissait d'entrer dans une histoire, et c'est l'histoire de la vie, en fait, à partir de la naissance du petit jusqu'aux certaines questions qu'on se pose quand on est enfant, adolescent, qu'est-ce que je vais faire plus tard, le premier amour, enfin, sans doute que c'était pour moi une façon aussi de témoigner de cette conscience qui naît peu à peu à partir du moment où on est enfant, et la conscience de la mort possible, donc de cette dimension de finitude avec laquelle on apprend à vivre peu à peu.
Encore une façon de remonter le temps, là, oui. Effectivement, de l'autre côté. Il y a une projection qui se fait immédiatement, d'ailleurs, à la lecture de ce livre. La dernière question que je voulais vous poser, c'était par rapport à l'écho, justement, qui vous est rendu à vous de votre propre poésie, puisque une des dimensions que vous avez évoquées, qui est essentielle pour vous, est le partage. Et c'est vrai qu'il est allé en par cercles qui se sont agrandis. Vous avez vous-même traduit des poètes que vous avez voulu faire découvrir aux Québécois. Vous avez aussi, vous êtes toujours d'une certaine façon un témoin de ce qui peut se passer dans d'autres pays aussi. Mm-hmm. Mais comment est-ce que vous vivez le fait que vos textes soient traduits à l'étranger et que vous deviez y aller, par exemple? Cet écho de la langue étrangère ou de vos mots traduits dans une langue que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que ça a comme effet sur vous aujourd'hui?
Mais en fait, la dimension première, vous l'avez dit, pour moi, c'est le partage. Je trouve que c'est toujours un miracle qu'un livre puisse être partagé. C'est-à-dire que tout à coup, quelqu'un prend un livre et le prend profondément, c'est-à-dire en fait une partie de son propre univers. C'est la dimension première pour moi. Donc, au niveau des traductions, disons spontanément, c'est ce qui me touche, c'est ce qui, pour moi, parce que je crois profondément à la capacité de la poésie de rejoindre les gens et de les accompagner dans leur vie, au même titre que plein d'autres choses qui ont sans doute plus de place là, dans nos sociétés. À partir de là, évidemment, si j'accompagne mes livres à l'étranger, ce que j'ai d'abord l'impression d'accompagner, c'est cette possibilité de la poésie d'entrer dans la vie des gens et de faire en sorte que tout à coup, il y ait peut-être un accroissement de certaines questions qui prennent plus de relief. Pour moi, c'est un travail, j'allais dire, d'éveilleur, de veilleur et d'éveilleur aussi, d'accompagner la conscience qui peut s'éveiller tout à coup, les questions qui se posent. Je pense que la poésie reformule aussi à sa façon certaines questions qui nous habitent profondément. Donc, accompagner mes livres à l'étranger, c'est d'abord accompagner la possibilité de la poésie de faire partie de la vie. Par la suite, évidemment, c'est la rencontre. C'est ce qui est vraiment pour moi essentiel d'aller, comme bon, le voyage le plus récent était en Serbie. Donc, évidemment, de rencontrer des gens qui ont vécu ce qu'on sait et d'entrer dans l'écran de télévision, c'est-à-dire de plus rester à distance de tout ça, mais d'aller à la rencontre de ce que ça veut dire tous ces événements dans la vie de quelqu'un et de rencontrer des gens qui ont une toute autre culture, une toute autre expérience de la vie, du monde, qui vivent sur en d'autres lieux. Donc, pour moi, c'est sous cette dimension. Bien sûr, concrètement, au niveau littéraire, et bien, ça veut dire aussi la rencontre avec des traducteurs. Donc là, c'est d'interpeller mon propre monde, de poser des questions, de pouvoir dire par moment, quand on pose une question très précise sur tel mot, ce qu'on a voulu dire ou non, de prendre conscience tout à fait humblement, parfois, je sais pas, ça m'a échappé, et de vivre aussi dans cette perspective qui est le doute renouvelé comme un instrument de transformation, de renouvellement de ma propre vie.
Mais je pense tout à coup que vous cherchiez la jonction entre le temps et l'espace. En fait, il me semble que le livre est justement ce qui permet de passer par-delà le temps, parce que le livre voyage après nous, et puis par-delà l'espace et par-delà les langues elles-mêmes aussi. Hélène Dorion, je vous remercie infiniment pour ces moments précieux passés avec nous. Je vais vous demander de finir en nous lisant un extrait de votre livre « Un visage appuyé contre le monde ». Et pendant qu'Hélène cherche sa page, je voudrais vous dire que c'est simplement pour entendre les mots, bien sûr, mais ce n'est pas une fin, puisque la parole sera à vous ensuite et que Hélène Dorion répondra à vos questions. Alors, quand vous voulez.
Alors, je vais lire quelques extraits d'une suite qui a pour titre « Je ne sais pas encore ». Je pense que c'est logique.
C'est une belle façon de terminer.
Je ne sais pas encore passer à travers une ombre, comme on passe dans une chambre d'hôtel, une salle d'attente, ces liens minuscules du silence enfouis en nous. Je ne sais pas encore me perdre dans ce qui vient et ne reviendra pas, aller parmi ces jours sans nom, ces heures où l'on ne trouve rien à poser de nous-mêmes, mais dont nos mains gardent trace, comme d'inutiles déchirures. Je ne sais pas encore donner, ni recevoir cette beauté qui reparaît en nous, pour un instant, une éternité que l'on sait périssable. Aurons-nous le temps d'aller très loin, de traverser les carrefours, les mers, les nuages, d'habiter ce monde qui va parmi nos pas d'un infini secret à l'autre? Pourrons-nous écouter le remuement des corps à travers le sable? Aurons-nous le temps de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés par nos tendresses, nos chutes communes? Pourrons-nous tout écrire d'un passage du vent sur nos visages, ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité? Aurons-nous le temps de trouver un mètre carré de terre et d'y vivre ce qui nous échappe? Je ne sais pas encore.
Hélène Dorion, merci beaucoup. Alors, voilà, la parole est à vous. Donc, vous avez deux micros.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors, merci beaucoup. Tu as beaucoup parlé du travail d'écrivain comme chemin vers la connaissance. Est-ce que je pourrais t'amener sur le terrain plutôt de la pulsion créatrice? parce que je pense beaucoup que les romanciers, les poètes sont d'abord et avant tout des artistes au même titre que les peintres et les musiciens. Et donc, des personnes qui, un moment ou à un autre de leur vie, ont dû être interpellées par ce besoin vital de créer, c'est-à-dire de donner un objet de création artistique qui soit totalement gratuit, et mais aussi que c'est quelque chose de un besoin chez eux qu'ils ont ressenti plus ou moins tard dans leur vie et pour des raisons parfois diverses. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, pour moi, c'est, moi, j'ai l'impression que très, très profondément, si je n'avais pas eu cette pulsion créatrice, il m'aurait été difficile, je le disais tout à l'heure, de vivre jusqu'à 30 ans, parce que le sens m'aurait profondément manqué. Parce que pour moi, créer, c'est d'abord créer du sens. C'est d'abord essayer de non seulement d'inventer, mais aussi de trouver l'ordonnance originelle des choses. Pour moi, écrire un poème ou j'imagine une histoire, c'est d'abord inventer des possibles et entrer dans cette capacité que l'on a non seulement d'inventer, mais de transformer le monde. Et pour moi, c'est un peu comme une issue, en fait. Et s'il n'y avait pas eu cette fenêtre, j'ai l'impression que je me serais sentie prisonnière d'un monde déjà donné, tout fait, et sans doute à l'intérieur duquel je me sentais non seulement étrangère, mais prisonnière jusqu'à un certain point. Parce que je pense qu'un artiste, comme tu le dis, a besoin de savoir qu'il y a toujours un autre monde possible, donc qu'on a la capacité d'écrire pour créer cet autre monde. C'est comme des fenêtres. Sinon, c'est comme vivre dans une maison sans fenêtre, y être enfermé et savoir qu'il n'y aura jamais d'autres pièces ou un extérieur ou d'autres chemins sur lesquels on va pouvoir aller. Moi, il me semble qu'intérieurement, tant que je sais que je peux écrire, vivre m'est possible parce que le sens est là. Et c'est comme un surcroît de sens qui est donné. Bien sûr, le sens existe déjà, on le trouve, mais pour moi, c'est donner un surcroît de sens à la vie et à ma vie.
D'autres questions? N'hésitez pas. La troisième question, c'était où allons-nous? Quels sont les livres à venir d'Alain Dorion?
Ben là, j'ai terminé récemment un livre de poèmes. Et c'est comme un très long poème narratif. Alors là aussi, la forme est assez différente. Je travaille aussi sur un autre livre de poèmes qui a pour thématique principale le cœur et aussi un roman. Je travaille sur un roman. Donc,
bon, ben,
il y aura des chemins pour les prochaines années.
Ben oui, mais on en est bien heureux. Alors... S'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore remercier Alain Dorion. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
Bien sûr, je vous invite à lire ces livres qui se trouvent à la bibliothèque et bien sûr dans les librairies. Je vous remercie tous et puis merci aussi pour votre fidélité au Midi littéraire.